Bon, les garçons, ouais. Là, c'est une semaine de florilèges.
Ouais, bah, c'est la semaine de vacances, quoi. Ouais.
Non, c'est la semaine des florilèges.
Oh, pardon, oui, pardon.
Voilà.
Ça va,
alors,
ça
on, va. On va devoir choisir les meilleurs moments.
Aïe, aïe, aïe.
Qu'est-ce qu'il y a?
Bah, disons, pour nous deux, ça va, mais c'est pour Guillaume.
Oh,
c'est plus...
qu'est-ce qu'il y a?
Non, mais tiens, si on prend que les meilleurs moments de ta chronique, on va pas tenir une semaine.
Mais oh, non, mais ça va, là.
Mais je te le dis, on va devoir rentrer de vacances plus tôt.
Mais c'est pas des vacances, c'est des florilèges.
Oui, enfin bon, tu dis pas, il va falloir rentrer de florilèges.
Oui, ça je sais.
Oui, et on prend pas des vacances sur l'île de florilèges, ça n'a pas de sens.
On ne prend des vacances nulle part.
Ah bah si. Bah bien sûr que si, c'est bien pour ça qu'on fait une semaine de florilèges.
Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire là maintenant? Ça c'est du direct, ça.
Oui, c'est du direct, mais qu'on a enregistré la semaine dernière en préparant les best-of.
Des florilèges.
Les florilèges, pardon, les florilèges.
Bon, oui, évidemment. Et donc au moment où ça passe, bon, par exemple, moi je serai à Acapulco.
C'est ça, et puis les gens auront la chance d'entendre deux morceaux parmi les plus chouettes émissions qu'on ait faites. Donc c'est sympa.
Oui, bah ça c'est l'avantage des florilèges.
C'est ça, on est certain que ce sera une bonne émission.
Voilà.
Donc c'est génial.
À part la chronique de Guillaume, là c'est plutôt du not worst of plutôt que du best of.
Florilège ! Oh ! Bonjour la France Inter, bonjour la Startup Nation. Vous écoutez le meilleur de la Startup émission, les Florilèges. Et aujourd'hui, pour ambiancer l'Open Space, on a rappelé l'humoriste Maman, le président de la République très très démocratique du Gondwana, qui officie quotidiennement sur RFI. Et pour prendre sa suite, on va rempiler avec Ramzi Bedia, le Ramzi d'Eric. Tous les deux sont venus nous présenter leurs films respectifs, mais on les a emmenés sur d'autres terrains. La moralisation de la vie politique, le bonheur au travail ou la boxe. Le sport est tellement à la mode en ce moment que même les cadres supérieurs viennent taper dans les sacs. Mais leurs sacs de boxe à eux sont en cuir vachette pleine peau, bien sûr. Lui, il tape sur des bambous et ses numéros. Bonjour Alex Vizorek.
Mais bonjour Charline Van Hanaken.
Alors laissez-moi deviner, vous allez me dire qu'on a une belle équipe aujourd'hui.
Eh bien, mais comment vous le savez?
Je sais pas, un
bah oui,
comme ça.
Bah c'est parce que c'est vous qui les choisissez, les chroniqueurs. On a une toute belle équipe. On a Thomas Bidguin qui nous parlera du rôle de l'auteur et il est bien placé pour le connaître. On a Guillaume Meurice, mais il est au fond du studio, comment il va?
Mais bien sûr, mais ça va très bien, Alex.
Eh ben, bonjour à tous. Vous réécoutez en discussion avec Jean Lassalle.
Oui, l'ex-futur président de la République. J'adore.
Un bon souvenir. Et on aura Thomas Croisière qui nous parlera du film de Ramzi Bedia. On terminera bien sûr, comme toute la semaine, par une chanson de Frédéric Fromet. Et celle-ci, ce sera sur la clause Molière.
Bon les garçons,
oui.
Are you ready?
Yes, for the best of.
Begin!
France Inter.
Florilège!
Charline Vanhoenacker. Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bonne arrivée, Maman, dans notre émission.
Merci. En Côte d'Ivoire, on dit Aquaba. Au Gondwana, on dit direct en prison.
Et oui, bienvenue au Gondwana. C'est votre film, Maman, avec Antoine Gouy, avec Antoine Duléry, avec Michel Gohou, avec Digbe Cravate, Prudence Maïdou. Le Gondwana, c'est ce pays qui cumule toutes les tares des pays africains. Ce pays dont vous nous parlez tous les jours sur RFI depuis déjà 2009.
J'ai commencé le 19 janvier 2009.
Ouf.
La veille de l'investiture de Barack Obama.
Ah.
Il a fait ses deux mandats et un bon gondouanais, je suis toujours là.
C'est vrai. Et dans votre film, la République très très démocratique du Gondwana organise des élections. Le président fondateur veut renouveler son mandat, bien sûr. Hein. Et une mission d'observateur de l'ONU vient surveiller le scrutin, avec parmi eux un député français, un assistant. Première question, Maman, c'est la somme de toutes vos indignations qui sont rassemblées avec le rire dans ce scénario?
Oui, c'est le rire utile, le rire de résistance, comme ce que vous faites ici. Simplement, en Afrique, c'est tous les jours, quand tu sors, les trous dans les routes, tu peux pas soigner ton enfant, il n'y a pas les bonnes écoles. Et donc, c'est un rire qui sert d'exutoire et qui sert aussi de... Bon, l'Afrique, c'est pas un pays, c'est plusieurs pays. Donc ça, il y a une raison encore plus grande dans l'humour. Et en même temps, on risque une bosse sur le crâne aussi.
On rit de la même façon et votre pays, il est compréhensible par tout le continent.
Tout le continent et au-delà du continent. Oui, le Gondwana, aujourd'hui, Donald Trump, c'est un bon président gondwanais. François Fillon est un bon président gondwanais aussi. Poutine, Erdogan, en Chine, partout. Donc le Gondwana est universel. Le Gondwana est en chacun
de nous.
C'est
vrai, parce que le fils de votre président, il bosse pas beaucoup, mais il bosse.
Oui, il bosse en boîte de nuit.
Ouais.
Il il adore les la convention de Megève, lui c'est ce qu'il adore. Ouais. Et donc voilà, c'est
il festoie dans un bien mal acquis à Paris.
Exactement, ouais. le bien mal acquis, la transparence du patrimoine. J'ai vu qu'on va en parler dans les élections présidentielles en France.
Parce que la France a, c'est un petit peu le Gondwana aussi à bien des égards.
C'est le Gondwana natal.
Oui, exactement, ils ont bien appris. C'est un film d'un Africain sur l'Afrique. Et là, ça nous fait oublier ce qu'on a vu avant comme comédie sur l'Afrique. Oui. Ça inverse beaucoup de choses. Ça inverse plein de choses. C'est pour ça que tout le rire et les situations drôles, les gags, moi, je les vois pas arriver parce que c'est votre point de vue d'Africain sur l'Afrique et tout est inversé. Donc, comme par exemple la communauté internationale qui vient regarder les élections.
Cette fameuse arlésienne, voilà. On dit communauté internationale. Oui, la communauté internationale est scandalisée par les bombardements syriens. Voilà. On dit, mais c'est qui la communauté internationale? Là, dans ce cas, on sait que c'est pas Poutine, il est pas dedans. Mm-hmm. Et la communauté internationale, un occidental, un français, un belge, un américain, quand on dit communauté internationale, il sait qu'il est dedans. L'Africain, il sait qu'il n'est pas dedans. Il sait que c'est comme quand tu viens en boîte, on te dit c'est une soirée privée. Donc t'es pas dedans. Et on cherche aujourd'hui qui est vraiment la communauté internationale. Il y a tout un tas de mots comme ça qu'on invente pour un entre-soi, sans dire les mots, comme les bailleurs de fonds, les pays industrialisés, sans dire les mots. Le malheur aujourd'hui, c'est que quand tu appelles la communauté internationale, c'est Donald Trump qui répond.
Est-ce que vous savez déjà dans quel pays africain votre film sera diffusé?
Oui, dans au moins 10 pays. Donc là, il sort au Niger, au Burkina Faso, au Gabon, au Cameroun, au Congo-Brazzaville, en Guinée, au Mali, au Tchad, en Côte d'Ivoire, 10 pays, et ça c'est un minimum.
Mais ça a été vu avant par Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, il n'a pas regardé votre film en se disant tiens, il me reconnaît parfois.
Il ne l'a pas encore vu peut-être.
Non, il n'a pas envie de le voir.
Ah oui,
il faut dire que vous avez été beaucoup aidé par la Côte d'Ivoire et que ces pays vous diffusent aussi, parce que, étant donné que personne ne veut être le Gondwana,
c'est ça.
Si vous diffusez le film, ça veut dire « Ah, le Gondwana, c'est pas
c'est
nous !»
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Quand je vais dans tous les pays africains, les ministres, les présidents veulent me rencontrer pour me prouver qu'eux, ils ne sont pas du Gondwana.
Eh oui. Et dans ce film, il y a aussi la musique originale de Ray Lema.
Oui, Ray Lema, immense.
Le très très grand Ray Lema. Oui. Il y a aussi Smarty qui chante Bienvenue au Gondwana. Oui. Et puis il y a un moment, il y a notre idole qui arrive comme ça. Ah là là, je l'ai vu arriver dans le film. Il fait une apparition chez les opposants. Oui. Le très très grand Chicken Jaffa Coli.
Je t'aime et quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir. Je t'aime et quitte le pouvoir.
Ça fait trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Tu pourrais avoir des emmerdes si tu nous laisses dans la merde. Oh là là, oh là là.
Quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir.
Je t'avais prévenu que tu as été mal élu, mais tu t'es accroché. Aujourd'hui tout est gâché. Tu pourrais avoir des ennuis si les choses restent ainsi. Oh là là, oh là là.
Quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir.
Aucun changement dans vos comportements, malgré différents gouvernements depuis 40 ans. Tu pourrais passer un sale moment si tu nous pourris le temps. Oh là là.
That side. PBS Radical Man. Well, no man could talk. Hey. qu'on a marre, on a marre, on dit qu'on a marre, on vit dans le cesse, on dit qu'on a marre, on a faim, pas de pain, on dit qu'on a marre, tout le pop, tous les gosses, tous les mecs, on a marre. Tu gouvernes mal, ton gouvernement mal, détourne mal, les comptes monumentales, vis dans le mal, tu nous fais dans le mal, il est donc évident que tu bêches dans le mental, pas d'évolution, mal libère le peuple, fais le vite, fais le bien, mal libère le peuple, et pense à demain, mal libère le peuple, tu le fais pour le bon, tu le fais pour le peuple, rester tout le temps, tu nous pourris le temps, pas le moins de changement, tu nous pourris le temps, pas de boulot, pas de job, tu nous pourris le temps, l'avenir tout le temps, tu nous pourris le temps, une seconde trop, une minute de trop, un cadavre de plus, un cadavre de trop, le mandat de plus, c'est le mandat de trop. On a marre, on dit qu'on a marre, on vit dans le stress, on dit qu'on a marre, on a faim, pas de pain, on dit qu'on a marre, tous les peuples, tous les gosses, tous les mecs, on a marre. Voilà la porte, et sort dans le calme, pas de balle, pas de sang, tu sors dans le calme, yo, voilà la porte, et sort dans le calme, t'es grave à dire, et sort dans le calme.
Kenja, et en plus on est en compagnie de Maman, on ne me tient plus. Excusez-moi, on ne me tient plus. Premier sujet avec vous, Maman. La France, mine de rien, elle passe son petit coup de balai sur la classe politique. Mélenchon appelle au dégagisme, on vire les favoris et les anciens. Ceux qui restent doivent justifier leurs notes de pressing. Le nettoyage doit tout rendre transparent. Ben, manquerait plus qu'ils deviennent honnêtes. C'est une question que nos élus se sont amenés à se poser.
Et admettons que je serais un salaud. Quel effet ça fait d'être un salaud? Si ça se trouve, on s'habitue très bien. Il y a des tas de salauds dans la vie qu'on les rend à l'aise. C'est même ça, peut-être, qui les rend à l'aise, le fait d'être des salauds. Quelle différence il y a entre un salaud et un type bien? Eh ben, c'est que le type bien, il a pas les couilles d'être un salaud, puis c'est tout. Moi, par exemple, qui suis dégonflé de nature, eh ben, je suis condamné à être un type bien toute ma vie. Oh, mais alors, attention. Parce que là, je viens de mettre le doigt sur un truc vertigineux. Ça voudrait dire que c'est la trouille qui rend honnête et que c'est le courage qui permet d'être une ordure. Ça changerait toutes les données du problème, ça.
Coluche dans La femme de mon pote de Bertrand Blier en 1983. Maman, quand on voit tout ce qui se passe au Gondwana et qui est très bien résumé dans votre film « Bienvenue au Gondwana », est-ce qu'en France, on n'est pas un peu pointilleux sur la moralité politique?
Si, je crois que c'est pour ça que les hommes politiques français préfèrent aller se cacher au Gondwana pour revenir avec des mallettes.
Ah oui, ah, oui.
Ça existe
dit,
encore ça?
Et oui, il n'y a pas de Bourgie sans feu, comme on dit.
Bourgie, l'homme au costume. Hein, oui. Effectivement. Et alors en France, à son niveau, avec le dégagisme, le non-cumul des mandats, ce ras-le-bol de la classe politique et des mandats qui se succèdent aussi. Il n'y a pas de comparaison à faire, bien sûr, mais est-ce qu'il y a une espèce de petit balai quand même citoyen aussi qui se met en place, mais d'une, à la française, quoi, c'est-à-dire extrêmement soft. Bah, comme il y a les brosses à dents soft et dures, là, c'est très très soft.
J'espère bien, avec Marine Le Pen, avec François Fillon, on voit que c'est les mandats qui s'accumulent, les mandats d'arrêt peut-être.
Et oui.
J'espère bien.
Et alors pour un Gondouanais, voir les Suédois qui se séparent d'un ministre qui a acheté deux barres de Toblerone avec l'argent public? Ça, c'est absolument inconcevable.
C'est bien les Suédois, c'est pour ça qu'on ne part pas en Suède. C'est trop froid.
L'intégration est trop difficile.
C'est trop difficile là-bas.
Maman, en Afrique de l'Ouest, on rigole énormément. Enfin, je parle Afrique de l'Ouest parce que je ne sais pas comment ça se passe dans le reste de l'Afrique.
Afrique centrale, oui.
Et en Afrique centrale, on rigole beaucoup, beaucoup de ces choses-là. On en parlait tout à l'heure, et notamment de la corruption. C'est comme un exutoire. C'est même comme un mode de vie. Est-ce que ça frappe le rire pour parler de ça? Est-ce que ça frappe encore les esprits où il y a un vrai fatalisme, une résignation?
Non, au contraire. Mm-hmm. On le voit dans moi, je fais le Parlement du Rire, qui est un programme
sur Canal Plus Afrique.
Où sur 30 minutes, il y a 4 humoristes qui viennent de partout, de l'Afrique. Je fais un casting sur tout le continent. C'est pas à l'échelle d'un pays, c'est à l'échelle de tout un continent. Et donc, 4 humoristes qui se succèdent sur scène et on le voit, chacun à sa manière, parle de la vie politique chez lui, parle des problèmes de comment prendre le bus, mais c'est jamais direct, c'est jamais frontal. Et il y en a d'autres, par exemple en Côte d'Ivoire, où l'humour est un peu plus développé, plus poussé, où c'est assez frontal chez certains, c'est très politique. Et le rire est libérateur de plus en plus en Afrique. Ce n'est plus des blagues qu'on raconte, c'est vraiment l'humour, le rire de résistance. Et dans ce film-là, tous les comédiens sont venus. Certains étaient prêts à jouer dans ce film sans être payés.
Pourquoi vous avez payé?
Parce que j'ai un producteur français qui est con.
Des acteurs qui viennent de plusieurs pays.
On va dépouiller le blanc.
Des acteurs qui viennent de plusieurs pays d'Afrique. C'est vrai, les acteurs viennent de plusieurs pays d'Afrique. Il y a un côté panafricain dans ce film qu'en Europe on n'arrive pas à faire. Bah vous y arrivez de montrer que on peut être de plusieurs pays puis faire un film collégial comme ça.
Il y a une unité de langue, il faut dire quand même aussi.
Aussi effectivement, mais je pense qu'on pourrait, nous on pourrait.
On va prendre un chroniqueur allemand, vous allez moins vous mal.
À côté de vous, Thomas Bideguin. Ah. Aujourd'hui, le thème, c'est l'auteur.
Oui, trop souvent oublié l'auteur. Toi qui écris un discours pour Jean Lassalle, ou une saga pour Steven Spielberg, ou un album pour Jay-Z, ou une blague pour Vizorek. Auteur, mon ami, mon frère. Oui, car derrière chaque histoire, chaque récit, il y a un cœur qui bat. Un petit être, généralement sous-payé, croyez-moi, qui vit dans l'ombre, se nourrit de sandwichs au thon, et dont le boulot est d'écrire les histoires que les autres se chargeront de nous vendre. Donc, il ne s'agit pas forcément pour lui de les inventer, ces histoires, simplement de les écrire, de les raconter. Parce que le travail d'un auteur ne consiste pas à inventer la réalité, mais à s'appuyer dessus pour raconter une histoire. Personne n'invente que François Fillon a embauché sa femme comme attachée parlementaire. Ça, c'est la réalité. Ce qu'on fait, en fait, c'est donner l'information, la placer au bon endroit, au bon moment, et là, le récit se déroule tout seul. Être auteur, parfois, c'est juste ça. Une bonne situation de départ et l'histoire qui s'écrit toute seule. Comme toutes les bonnes histoires, ce sont les personnages qui l'écrivent eux-mêmes. Ça marche comme ça avec François Fillon, et c'est pareil avec Kim Kardashian. Enfin, les sourcils en moins. Et 500 000 fonctionnaires en plus. Enfin, ouais. Apparemment, Kim Kardashian va avoir un nouveau bébé.
Ah.
Bon, ça, l'auteur, normalement, il y est pour rien. Il ne couche pas avec des vedettes, il mange des sandwichs au thon dans une cave. Mais 8 jours après l'annonce, la publicité pour la nouvelle saison du reality show de Kim Kardashian est déjà en ligne, qui raconte tout. Sauf le prénom du bébé. Le premier bébé qu'ils ont eu s'appelait North. Ça faisait North-West.
Ah ouais.
C'est là, on ne sait pas. Ouais. Si c'est un garçon, peut-être qu'ils l'appelleront Al.
Ça marche.
Mais c'est comme ça.
Non, c'est un bon auteur. Il y a un bon auteur derrière.
Mais l'auteur n'invente pas la réalité. Il s'appuie juste dessus. En tout cas, chacun son boulot. Et on espère que ça va relancer la série dont les dernières saisons étaient, de la vie générale, assez kardashiantes. Bon. Alors oui, il y a des auteurs qui inventent des mondes inconnus. Ça existe aussi. Des auteurs qui inventent des galaxies folles, comme Star Wars, par exemple. Eh bien, même là, c'est la réalité qui emporte la partie. Parce que, à la fin, malgré tous les vaisseaux, malgré toutes les planètes, tous les monstres déployés, les Jabba, les Jar Jar Binks, tout ce qu'on retient de la saga, au final, c'est « Je suis ton père ». Voilà, une phrase que l'auteur a dû entendre à la terrasse d'un bistrot, ou une phrase que, loin des sabres laser, Bruno Leroux aurait pu dire en voyant arriver sa nouvelle stagiaire. Une phrase que Jean-Marie Le Vador pourrait prononcer en découvrant que sa fille se met enfin à débloquer sur la Seconde Guerre mondiale. Oui, un auteur, ça n'invente rien. Ça agence la réalité pour lui donner un sens. Ça tire les ficelles comme un marionnettiste. Et c'est pour ça que la vocation d'un auteur, c'est de rester dans l'ombre. Et d'ailleurs, dès que l'auteur passe sur le devant de la scène, comme moi, bêtement, eh bien, on sait qu'on court à la catastrophe. Parce que c'est comme expliquer un tour de magie.
Ah oui.
Bah oui, prenez Henri Guénaud, par exemple. Ben, il était auteur pour Sarkozy. Il est sorti de l'ombre, il s'est pris pour le magicien, et maintenant, il raconte plus rien. Il aboie tout seul dans un grand désert. Voilà ça, il doit regretter l'époque des sandwichs au thon. Et oui, un auteur, pour créer des histoires, ça doit par essence rester dans l'ombre. D'où l'intérêt du cabinet noir. Là, oui, on est entre soi. On doit y être bien, on doit y être peinard dans ce cabinet noir. C'est un sanctuaire, sandwich au thon toutes les 2 heures. T'as un truc sur le fils Pécresse Non, moi je suis sur la saison 2 de Pénélope Fillon. Attends, je finis l'histoire du financement du FN et je te file un coup de main. Voilà, c'est l'ambiance des bons copains. Amitié, fromage. On regrette juste qu'ils aient été découverts et qu'ils, du coup, ils n'ont pas eu le temps de finir l'histoire des costumes de Fillon.
Ah, t'es bien, celle-là.
Bah oui, parce qu'on sait que c'est Bourgi qui lui a offert 2 costumes, mais on n'a pas l'histoire qui va avec. À quel moment un type dit à un autre qu'il va lui acheter 2 costumes ? qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la réalité de ça? Alors, on va nous dire, oui, c'est légal, c'est illégal, c'est moral ou c'est immoral, mais on ne nous raconte pas l'histoire. Il s'est passé quoi? On était en train de manger, là, et puis Robert m'a dit, attends, c'est pas possible, t'es vraiment sapé comme un sac. Je sais pas, ou un truc comme ça. On était au café, on regardait un match de foot, je me suis foutu de la bière partout. Robert m'a dit, t'inquiète, voilà, je vais t'arranger le coup. Voilà, cette histoire-là, les auteurs ne l'ont pas écrite, c'est dommage. Peut-être qu'il n'y avait plus de papier au cabinet noir. Alors, voilà, auteur, mon ami, mon frère, je sais que tu fumes trop, tes doigts sont jaunis, je ne parle pas de tes dents, que tu dors mal, que tu es en retard d'un ou deux scénarios, comme toujours, mais remets-toi au travail. La réalité a besoin d'être ordonnée pour nous devenir lisibles. Le monde est une nuit. Lâche ce sandwich au thon et éclaire-nous de ta lumière.
Oh. Thomas Bidguin, merci Thomas. Sujet 2 avec vous. La France a battu son record de détenus cette année. Les gardiens de Fleury-Mérogis ont bloqué la plus grande prison d'Europe hier suite à l'agression de 6 agents. Le taux d'occupation à Fleury-Mérogis, 180%. La prison de Villepinte, le taux d'occupation, 201%. De quoi faire passer un dictateur africain pour un perdant aux élections. Hein. Alors on a cherché d'où vient cette propension à enfermer trop de gens dans un même espace.
Est-ce que vous avez encore de...
C'est pas un reproche, mais vous avez rien prévu en somme pour les prisonniers.
Si, mais notre avance a été très rapide, n'est-ce pas? Nous avons fait beaucoup plus de prisonniers que sur le plan.
Justement, quand vous avez vu que vous alliez en avoir trop, fallait ralentir. En tout cas, la fameuse organisation allemande, laissez-moi rigoler.
C'est vrai, ils capturent, et après ils savent même plus quoi en foutre.
Sur le fièvre, Pierre Mondi dans La 7ème Compagnie. Maman, j'ai lu que vous étiez entré dans les prisons, vous entrez régulièrement pour des ateliers théâtraux.
Oui, en Afrique et ici, en France aussi.
D'accord,
j'ai fait pendant à peu près 2-3 ans à la maison d'arrêt de Saint-Étienne, la Talaudière. Et j'ai fait même un atelier avec des détenus. Là-bas, on a fini en première partie de Michel Boujna. On a réussi à les faire sortir pour le spectacle et c'est vraiment un de mes très bons souvenirs. Spectacle devant 800 personnes avec des détenus. Les gens ne savaient pas que c'était des détenus, on leur a pas dit.
Ah oui, sinon ils seraient partis en courant.
Et oui, c'est ça. on leur a pas dit, ouais. C'est à la fin qu'on leur a dit ça, qu'ils étaient sciés et Michel Boujna a accepté qu'il fasse sa première partie. Donc oui, en prison, faut juste passer la première porte. Après, on fait plus gaffe au claquement des portes.
Mais cette indignité qu'on voit, parce que dans une surpopulation, avec, je pense que c'est 20% des prisonniers qui dorment avec sur un matelas jeté au sol,
et tous les problèmes à tour de rôle même.
Ouais, et tous les problèmes que ça engendre, vous avez pu voir un peu cette indignité. La France se tarde toujours d'être le pays des droits de l'homme, et à Villepinte, il y a 201% de...
Non. J'entrais dans la maison d'arrêt et on avait rendez-vous à l'amphithéâtre, donc je n'avais pas accès.
C'est limité.
Voilà, j'avais pas accès à leur cellule, mais quand j'ai dit ça à certains prisonniers en Afrique, ils m'ont dit, oh, les prisonniers français, ils ont la chance d'avoir des ateliers de théâtre, hein.
Ah oui. Voilà, j'allais vous poser la question, c'est un milieu très mystérieux pour nous parce que, c'est la prison.
J'espère que ça le reste.
Oui, ça le reste. Et en Afrique, quand vous allez faire vous allez aussi faire des ateliers de théâtre dans l'une ou l'autre prison, vous avez eu l'occasion?
J'ai fait ça dans une espèce de maison de correction de jeunes. C'était pas proprement parler une prison, parce que en Afrique,
plutôt maison d'arrêt, on dirait l'équivalent.
En Afrique, toutes les prisons s'appellent des maisons d'arrêt et de correction pour les fautes d'orthographe. Les prisons, c'est vraiment déjà quand on voit, il y a un président qui a dit, c'est le président du Gondwana, hein, pour pas citer de nom, il a dit si on traite les prisonniers très bien, ben tout le monde va vouloir aller en prison parce que ça serait mieux que dehors.
Mais bien sûr.
Que dehors, il y a pas de courant, pas de travail, parce que quand on voit les migrants sortir, venir se noyer ou mourir de soif dans le désert, on se dit mais qu'est-ce qu'ils fuient, et c'est les élections qui sont à la base de tout ça, parce que la communauté internationale donne le label démocratique à des dictateurs. On sait qu'ils ont triché, mais comme on veut faire des affaires avec eux, ben on les laisse tricher, frauder. Et le combat commence par déjà élire des gens. qu'on aurait choisi. Mais on voit que ici, en Europe, dans ce qu'on appelle les démocraties, ben, nous, en Afrique, on se bat pour aller voter. Ici, les gens se battent pour aller à la pêche.
Effectivement, faites bien de le rappeler, Maman. Allez, Guillaume Meurice, justement, parlons de résistance, c'est
ben,
à vous.
Eh ben, je vais vous parler de mon rendez-vous dans la quatrième dimension avec Jean Lassalle. Alors, je vais vous dire, je lui avais demandé un quart d'heure d'entretien, je suis resté une heure et demie avec lui. Disons que s'il existait un prix Nobel de sympathie, il pourrait postuler. Mais s'il existait un prix Luchini de diction, je pense que Jeannot, il se tirait entre Michel Rocard et un parpin. Et sachez vous dire, Jean, il en a bien conscience.
Un jour, il y avait une petite fille qui disait « J'aime le grand, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. » Il disait « Elle disait à sa mamie. »
Le grand, c'était vous ?
Moi, c'était moi, oui.
Et c'est vrai, des fois, on ne piche pas.
Non, on ne piche pas, parce qu'il faut que j'aille à l'orthophoniste. Et j'ai besoin aussi d'apprendre quelques techniques de communication.
Oui, orthophoniste, technique de com, ou simplement ouvrir la bouche hein, quand on parle. Hein, ça peut être un bon début, Jean. Remarque, il y en a d'autres qui ont une grande gueule et qu'on ne piche pas forcément. Hein. On a demandé d'ailleurs à un linguiste de trouver un sens dans un discours de Macron. Et on aura le résultat quand il sortira de dépression nerveuse. Mais tout comme Macron, Jean Lassalle est très suivi.
Bon, j'en ai qu'un pour ça, ouais, donc c'est pas beaucoup. Mais ils sont partout.
C'est 1%, mais très dilué, quoi.
Non, il est partout.
Oui, partout.
Partout, il m'a déçu, il m'a suivi ce matin.
Mais c'est les mêmes 1% que
je
fais.
Je pense que c'est les mêmes qui font tout le Tour de France, eux et moi.
Bon. Alors là, c'est carrément, c'est une secte, alors, du coup.
Je sais pas comment il faut le définir. Je dirais, c'est 1% très dégourdi.
Très dégourdi, avec pas mal de temps libre, hein, aussi, quand même, pour faire le tour. Faut le suivre, hein, Jeannot, hein, dans sa campagne, et à la buvette. Hein. Il a une descente, j'aimerais pas la remonter en vélo, comme on dit. Alors, attention, c'est 1% dans les sondages. Hein. Dans les sondages, et les sondages, qu'est-ce qu'il en pense, Jean ?
Les sondagiers qui sont accrochés à la mamelle de la République, comme à la mamelle d'une vache. Tu sais, la mamelle d'une vache, il y a à la fois du lait et du sang. C'est très bon politique.
Là, c'était un mime. Alors, à la radio, ça va pas. Non, c'était un mime de veau. Là, on a le bruitage déjà de vous.
Oui, on a le bruitage. Par contre, là.
Donc, il y a du lait et du sang.
Oui, il y a du lait et du sang. Alors,
quel rapport avec les sondages, là, du coup ?
Il n'y en a aucun.
Voilà, ouais, c'est bien. C'est bien ce qui me semblait. D'accord. Mais niveau mime de vos quittettes, je vous jure, ça valait le coup. Je regrette de ne pas avoir eu de caméra. Alors, c'est vrai qu'il se défend pas mal dans le domaine du mime. Genre, par exemple, pour parler géopolitique, il évoque un arc électrique qui crée une tension entre les pays. Attention, arc électrique.
Tu vois, ça grince, c'est pas bon, c'est tout ça.
Anira. C'est le bruit de l'arc électrique ?
Oui. Ah oui, c'est... Ils ont qu'à essayer. Et je vais vous dire, chers auditeurs de France Inter, descendez tout de suite devant la porte, vous levez le capot, si vous savez le faire, vous cherchez les deux cosses et vous les mettez en présence.
Mais là, ils vont se prendre un coup de jus, non ?
Ça peut arriver.
Jean Lassalle a aussi d'excellents conseils pour se prendre une bonne châtaigne. Hein, c'est pas pour rien qu'il est du Sud-Ouest et qu'il est proche de la ruralité. Il a même été applaudi au congrès de la FNSEA. Hein, c'est le célèbre syndicat agricole qui est à l'alimentation saine ce que Bachar el-Assad est au câlin et au bisou, si vous voulez. Explication avec Jeannot.
Je pensais pas qu'il m'aimait au point de m'applaudir autant.
Parce que c'est pas gênant d'être applaudi par la FNSEA.
Mais les campagnes, c'est vachement joli. Et,
oui.
Et si je les retape?
Alors, c'est joli si c'est pas saccagé justement par la FNSEA, non ?
Non, ne me fais pas dire devant la FNSEA, ils m'ont applaudi. T'es malin, hein, toi.
Je suis malin, Jeannot. Je cherche juste à voir où s'arrête et où commence la cohérence. Apparemment, aux premiers applaudissements, serait-il prêt à boire un bol de glyphosate pour une Ola ? C'est la question qui se pose désormais. D'ailleurs, puisqu'on parle cohérence et éthique, est-ce que Jeannot serait d'accord pour baisser le salaire des élus ?
Non, pas trop. Parce que déjà, moi, avec 5 300, j'y arrive pas.
Ah bon, mais pourquoi vous n'y arrivez pas avec 5 000 ?
Non, mais je paye aussi, je suis obligé de payer tous mes frais là, dans ce début de campagne, parce que je n'avais pas de budget.
Ah, c'est parce que vous êtes candidat à la présidentielle, mais sinon ?
Oui, bon, enfin, d'accord.
Henri Guénon, il a dit qu'il ne s'en sortait pas avec 5 000 euros par mois.
Mais, il n'y a peut-être pas toi.
Eh oui, parce que Jeannot, il est peut-être proche du peuple, mais il n'est pas moi, député. Et oui, hein, il veut bien se battre contre des grizzlies, on a entendu, mais touche pas au grisby. Même si, pour être honnête, on peut quand même pas le soupçonner d'être le candidat de l'argent. Il a même soutenu ITélé dans sa lutte contre Bolloré.
Monsieur Bolloré s'est énervé, il a dit... Non, là, j'ai pas réussi.
Vous faites mieux le veau que le sifflement, finalement.
Oui, c'est parce que je ne suis pas entraîné. Là, les oiseaux me manquent.
Ah, voilà, les oiseaux me manquent. On préfère retenir ça de Jean Lassalle. Peut-être un des derniers à connaître les chants d'oiseaux et à ne pas prendre les électeurs uniquement pour des pigeons.
C'était Shaft par Isaac Hayes dans le cadre de la journée du label Stax.
Bon anniversaire à Stax.
C'est exactement. L'anniversaire de Stax,
ouais, bien sûr. Oui, c'est France Inter, on fête l'anniversaire des labels.
Oui, bon anniversaire les labels.
Et bonjour à tous les labels.
Oui, tous les labels, on salue, fêtez votre anniversaire.
Et on poursuit cette émission, cette fois-ci en compagnie de Ramzi Bedia, le Ramzi d'Eric.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanunacker.
Ah, voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter ?
Ramzi Bedia qui est avec nous jusqu'à 18h. Une vie ailleurs d'Olivier Payon avec Isabelle Carré et Maria Duplat. Alex Vizorek.
Oui, vous allez voir Ramzi, je suis un excellent lanceur de pitch. Et à un moment, je vous tends la main et vous continuez.
Mais un pitch c'est court, donc vous allez à quel moment me lancer
Ça va être très évident. Et donc, dans le film,
je vais la voir.
Oui, vous allez la voir. Dans le film, vous êtes Mehdi, assistant social. Et vous accompagnez Isabelle Carré, Sylvie. Pour récupérer ce fils qu'elle n'a plus vu depuis 4 ans en Uruguay, Felipe. La main tendue.
C'est tellement bien fait.
C'est
bien
fait.
Ah oui, mais c'est professionnel, c'est France Inter.
Mais le oui, et vous avez tout dit.
Ah oui, mais non, on peut en dire un peu plus tout de même.
Bah, je peux un peu paraphraser du coup. C'est effectivement.
Il n'y a pas de question, en fait.
Non,
il faut d'abord raconter l'histoire, parce qu'après, parfois, on me dit tu poses la question trop loin alors qu'on n'a pas raconté l'histoire. Là, on commence par l'histoire.
Je vais le raconter, comme vous l'avez dit, le vrai pitch. Je vais te dire le pitch par le prisme de mon personnage.
Ah, très bonne idée, bonne idée.
Ça, c'est intelligent.
Ouais.
Et c'est un éducateur, un assistant social qui est un peu en rupture avec le système parce qu'il est déçu de ce qui se passe dans certains cas dont il s'occupe. Et il apprend qu'un de ces cas, Isabelle Carré va repartir en Uruguay pour y kidnapper son fils et le récupérer, qui a été kidnappé par son ancien mari. Et j'ai décidé de l'accompagner pour la protéger un peu et puis l'aider là-dedans.
Et vous
pour
dites faire les démarches administratives. Je vais lui ramener son gamin, mais proprement. C'est-à-dire que il y a encore la conscience de l'assistance sociale, même dans cette mission qui, pour finir...
Ah oui, oui, j'ai pas claqué la porte de l'assistance sociale et je suis parti le kidnapper. Non, j'essaye de... C'est vrai, en plus, maintenant que vous me le dites, le personnage, il y va pas pour le kidnapper dès la base, en fait, mais dès le départ, il va pour le kidnapper.
Ça, c'était une phrase...
Mais c'était très étrange. Je suivais un petit garçon dans la rue avec une voiture.
Et oui, ça m'arrive aussi.
Comme dessin de le kidnapper. C'était très chelou.
Oui, mais vous essayez de le comprendre d'abord et de comprendre où il vit, comment il vit, et vous constatez qu'il est heureux là-bas.
Et oui, et en fait, c'est pas une métaphore, mais c'est un film qui parle de la nouvelle famille. Pas de la nouvelle, même, ça fait longtemps que ça existe, des familles comme ça, mais c'est pas une famille, c'est pas un papa et une maman et les liens du sang obligatoires.
Allez dire quoi. Ça, François Fillon.
Eh ben oui, non, mais c'est-à-dire qu'en ce moment, en plus à l'époque où il y a plein de gens qui manifestent pour nous dire le contraire, je trouve que si on peut essayer de leur montrer qu'il y a des vrais liens qui peuvent se faire et qu'une famille, ça peut être aussi une grand-mère, ça peut être quelqu'un qui l'aime, c'est quelqu'un qui se lève tous les jours pour lui faire à manger.
Et c'est des amis, parce qu'il a énormément d'amis là-bas.
Exactement. Il a une vie sociale, il a une vie ailleurs que...
Pour un gamin qui doit avoir 8-10 ans.
Oui, alors qu'en vrai, il en a 25.
Et donc, finalement, le...
L'acteur est très bon.
Le drame, pour vous, le drame, c'est qu'il est heureux.
C'est ça.
Allez, c'est ça tout le nœud du film.
On parle de France pour aller kidnapper...
Que j'ai pas vu encore, hein.
Pour aller kidnapper un enfant qui a été lui-même kidnappé une première fois et on l'imagine malheureux et qui demande que sa maman. Et arrivé là-bas, on se rend compte qu'il a une vie ailleurs et qui est peut-être mieux que celle avec sa vraie maman finalement.
Quand on est Ramzi et qu'on se voit proposer un rôle comme ça, on vous connaît dans beaucoup plus dans l'humoriste, dans le mannequinat évidemment. Est-ce qu'on réfléchit à deux fois avant d'accepter un scénario dit plus tragique?
Non, pas là. C'était Isabelle Carré qui m'a conseillé à Olivier Payon, le réalisateur, parce que je venais tourner un film avec Jalil Lespert, Benoît Magimel et Isabelle Carré. C'est là qu'on s'est rencontrés. C'est elle qui, comme c'était un rôle dramatique aussi, c'est elle qui m'a conseillé à Olivier. On s'est rencontrés. Et plus que le scénario, que j'ai beaucoup apprécié après, mais c'est l'homme, la personne qui me raconte l'histoire, celui qui va le faire, c'est lui que j'écoute. À chaque fois qu'il y aura des gens passionnés qui ont des choses à me raconter, je les suivrai. Si vous avez quelque chose, je vous suis.
On va aborder un deuxième sujet, parce qu'une grande majorité des Français se déclarent heureux au travail. Résultat surprenant, puisque tous nos journaux ont décidé d'en parler, et que la souffrance au travail reste un douloureux problème. Alors attention, parce qu'entre le bien-être et la souffrance au travail, la frontière est parfois ténue.
Bon, alors, autant vous le dire tout de suite, Johnny, ce midi, j'ai mangé une choucroute aux fruits de mer avec les collègues du bureau. Alors, en arrivant à la cantine, on s'est dit, c'est super, ça dégageait une odeur. Oh, on était contents. On s'est dit, ça a l'air excellent, et c'était très bon d'ailleurs, il n'y a rien à dire, sauf que c'était beaucoup trop lourd. Alors vous l'imaginez, j'ai eu une après-midi pas très facile, avec l'envie de prendre une douche, envie de mâcher un mentos. Certains m'ont dit, Michel, aère ton bureau, et puis ensuite très vite, m'est tombé dessus, vers 16h, 16h30, le traditionnel coup de barre.
Message à caractère informatif par Nicolas et Bruno. Est-ce qu'un acteur et humoriste, il est forcément heureux au travail ? Est-ce que vous pouvez dire, Ramzy, je suis comme cette majorité de Français, moi je suis heureux au travail ?
Je dirais que ce métier, c'est un peu toujours bizarre.
Ah oui, parce que peut-être vous n'avez pas l'impression de travailler, ouais, tellement c'est un plaisir.
Non, je crois que c'est le plus beau métier, donc on est très très heureux quand un acteur il tourne. Mais un acteur qui tourne pas, je crois que c'est le boulot le plus horrible du monde.
Ouais.
Mais sinon, un acteur qui tourne, il n'a pas à se plaindre.
Ouais.
On vient nous chercher le matin, on prend pas le métro pour aller sur le plateau. Quand on a soif, on appelle, on demande, on nous ramène. Tout, on est très très chouchouté. Donc oui, celui qui est pas heureux en acteur, il est bizarre.
Et donc, ce serait quoi un acteur qui pourrait se plaindre de ses conditions de travail?
Il y en a.
Julie Tarnot, plus de Nutella sur la table de régie.
Exactement. Non, mais il y en a.
Ça fait chier. Ça fait chier.
C'est grave. J'en ai vu gueuler parce que c'était pas le bon thé. Je t'ai dit un thé,
soir. Au jasmin.
Si au jasmin passe soir sur le Nil. Mais il faut aller l'acheter là-bas. Tu veux pas le cas ça? Non. On envoie un assistant aller chercher la bonne marque de thé.
Ah, oui,
j'ai déjà vu des trucs, plein de trucs comme ça. Ouais.
J'imagine. Quand vous dites, c'est vrai, un acteur qui tourne, il a de la chance. Celui qui tourne pas, c'est vraiment la galère. Est-ce que parfois, il y a un fantasme d'une vie rangée, de j'arrive au bureau à 9h, je pars à 18h, je ne ramène pas de travail à la maison.
Est-ce
qu'il y a un peu ce fantasme-là?
Oui, complètement, oui. Je crois que tu connais ça aussi, Juliette. Il y a des fois... Je sais pas. Non, parce qu'en fait, on est responsable de tout ce qu'on fait. Encore nous, on monte des projets. Je sais que elle écrit aussi. Donc, toi aussi.
Faut être tout le temps avec des projets.
Ouais,
c'est ça.
Tu rentres à la maison, tu penses qu'à ça. Oui, il y a des fois, j'aimerais bien, en fait, me délester des responsabilités.
Il y a des postes ouverts à France Inter. Enfin, si
moi, je veux bien faire le sniper, faire 2-3 petites blagounettes et puis vous ramener.
C'est de nouveau être autour de la table avec un micro, mais on a des postes.
Ah oui.
Remplir la machine à café.
Pas au micro. Dans la tête. Excusez-moi, j'avais la prétention d'être au micro.
C'est marrant celui-là.
Oh là, qu'est-ce que je me la raconte?
C'est parce que vous parliez de vie de bureau. Alors Alex, il cherchait une vie de bureau.
Mais oui. Vous voulez vous aider, moi?
Et voilà pour cette plus ou moins bonne nouvelle, quand même.
Non, mais ce qui est rigolo, c'est que les Français sont surpris d'être heureux.
Oui,
c'est tellement
ça.
Français, je trouve.
Oui,
ça. C'est putain, il faut qu'on le dise parce qu'on savait pas qu'on était heureux.
Il y a aucune possibilité pour qu'ils mentent, comme sur les sondages.
Alors,
sur le sexe.
Il faut dire, c'est une enquête commandée par le syndicat la CFDT, qui est réalisée sur 200 000 personnes. Donc c'est quand même un gros échantillon.
On y apprend aussi que 54% des personne apporte une bouilloire au bureau. Voilà, donc il y a quand même des informations de fond.
On peut confirmer.
Et c'est peut-être
Radio
un lien avec leur bonheur.
20 minutes, on ne vous entend pas.
Ouais.
Mais alors, quand vous intervenez...
Vous savez, on va au fond dans l'information, au fond des choses. Et
justement,
je pense que cette information bouilloire était nécessaire.
Profitez de la vague. Thomas Croisière.
Sur cette vague. Bonsoir Ramzy Bédia.
Bonsoir Thomas.
J'imagine que vous me connaissez. Thomas Croisière, organisateur de soirées privées. Pardon. Comme vous parlez espagnol dans Une vie ailleurs, spécial casse dédi. Soy Thomas Crucero, organizador de fiestas privadas, ya sabéis, comuniones, bar mitzvahs, bodas, embarcad en un océano de riso, con Thomas Croisero, reversiones es, al 01 45 24 vino.
Très bien.
Oui, mes parents m'ont obligé à faire allemand, première langue, tout ça pour être soi-disant dans les meilleures classes, et puis on sait jamais en cas de guerre. Et franchement, ça ne sert à rien, et résultat, je ne sais plus dire que « Es sind immer noch Kinder auf dem Dachboden ». Il reste encore des enfants dans le grenier. Autant vous dire que j'en veux beaucoup à mes parents, et comme le petit Felipe dans votre film, j'aurais préféré être enlevé très tôt, parce que tout est préférable au Pas-de-Calais. Même la petite ville de Florida en Uruguay. Et je vous épargne mes devinettes, quelle est la capitale préférée des vidéastes. L'Uruguay, sublimé par la réalisation dynamique tout en lumière naturelle d'Olivier Payon, est une des jolies découvertes d'une vie ailleurs, car étonnamment, il ne s'y tourne que 3 ou 4 films par an. L'autre découverte du film, c'est votre acolyte de toujours, Éric Judor, acteur caméléon, capable à la fois de jouer le génie d'Aladin et de nous donner envie de payer nos factures EDF. Éric, qui, avec une perruque blonde et les yeux rougis par le chagrin d'une mère, ressemble à s'y méprendre à Isabelle Carré.
Non, attendez, attendez. C'est Isabelle Carré.
Eh ben, vous voyez, Alex, le gars est vraiment bon. Même vous, vous êtes fait avoir. Isabelle Carré y incarne donc Sylvie, qui part rechercher son fils, enlevé par son père 4 ans auparavant. Cela m'a fait penser à Woody Allen qui disait « Quand j'ai été kidnappé, mes parents ont tout de suite agi. Ils ont loué ma chambre. » Sylvie, elle, est décidée à récupérer son fils par tous les moyens, même les plus illégaux, avec l'aide de Mehdi, l'assistant social que vous incarnez. Le problème, c'est que le petit Felipe s'est reconstruit une vie sans sa mère, une vie ailleurs, et qu'il est heureux. Le poète chantait « On passe sa vie à faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on
mais
ment ».
Mais non.
Le film pose donc de nombreuses questions. Mehdi doit-il courir le risque de briser le bonheur de cet enfant? Mehdi aime-t-il Patrick Bruel? Et surtout, faut-il chercher Mehdi à 14h?
Oh oui. Moi, oui.
Je sais ce qu'il va faire, parce que j'ai vu le film. Mais ce sont des questions qu'aurait dû se poser George Lucas en écrivant L'Empire contre-attaque. Dark Vador devait-il dire à Luke Skywalker « Luke, je suis ton père ». La réponse... Manifestement, non. Résultat, le gars essaye de se taper sa sœur. Même moi qui viens du Pas-de-Calais, j'ai trouvé ça choquant. Il fait copain-copain avec des ours en peluche et finit par tuer son père sous prétexte qu'il y a encore du bon en lui. Non, les amis, soyons sérieux. Le principe même de l'éducation, c'est de faire de ses enfants des névrosés, pas des psychopathes. Alors que certains essayent de nous faire croire que des parents se résument à un papa et une maman et que j'aurais tendance à dire « ça peut être ce que vous voulez, mais surtout pas dans le Pas-de-Calais », une vie ailleurs pose avec justesse et pudeur des questions essentielles sur la parentalité. Tes parents sont-ils ceux qui t'ont donné la vie ou ceux qui t'élèvent? Felipe n'est-il pas plus heureux élevé par une tante? Une tante biologique, hein, pas comme les gars de la Manif pour tous l'entendre. Et puis surtout, dans une vie ailleurs, il y a vous, Ramzi Bedia, vous qui éclaboussez l'écran de votre talent, comme vous avez dû éclabousser vos partenaires de votre salive, car l'espagnol est une langue qui fait sacrément postillonner. Après vous avoir vu dans la tour de contrôle infernale, je m'étais demandé si les comiques avaient le droit de vieillir. Et alors que vous venez de fêter vos 45 ans, la réponse est oui. Surtout pour interpréter des rôles comme celui de Mehdi, tout en sobriété, tout en humanité. Pendant des années, vous avez su nous faire rire, et là vous arrivez, comme dans Hibou, votre premier film de réalisateur, à nous émouvoir. Bravo Ramzi Bedia, vous avez décidément beaucoup de talent.
Nous ne voyons pas d'autres explications.
Oui, nous ne voyons pas d'autres explications.
Merci Thomas Croisière.
Thomas, la capitale préférée des vidéastes, c'est...
Ah, c'est Montevideo.
Oh oui,
oui, oui.
Et est-ce que je peux aussi revoir, dans ce cas, si on est sur le replay, de oui. Je peux revoir la phrase en allemand?
Ja, yeah. Que je connais par cœur. Es sind immer noch Kinder auf dem Dachboden.
Il y a encore des enfants dans le grenier.
Mais oui. Écoutez, en Belgique, c'est à la cave. Alors,
c'est du 12 ans d'âge, la meilleure cuvée des Flandres.
On va aborder ce troisième sujet. Depuis les derniers Jeux Olympiques et les victoires de la boxe française, le nombre de licenciés a bondi de 17%. Les femmes s'y sont mises et la boxe est désormais pratiquée par toutes les classes sociales, y compris l'école blanc. Un célèbre entraîneur nous explique tous les bienfaits de ce sport.
Regardez Eric. Voilà seulement 2 jours qu'il a commencé ma technique spéciale, mets tes muscles en vacances et fais hurler ton cœur. Eh oui, parce que lui aussi voulait obtenir un beau corps de grenouille comme le mien. Et c'est bien à 16 ans d'avoir des rêves, mais il va falloir travailler, mon garçon, hein. Laissez-moi vous montrer ma splendeur. Khön, viens ici, il est roumain. Il y a 2 ans de cela, tout le monde riait de Khön sur la plage, hein. On le montrait du doigt, allez, exercice à la barre. On lui jetait des coquillages dans le dos. Et à présent, regardez-le, il distribue des coups de battoir sur la plage, hein.
Monsieur Manhattan, il y a des articles qui fleurissent sur le phénomène de la boxe. Vous n'avez pas attendu les succès français au dernier JO au Brésil pour vous intéresser à la boxe, non, Ramzi?
Ah non, je suis passionné de boxe depuis mon plus jeune âge et pratiquant.
Et qui vous a donné, comment vous avez trouvé ça en vous? Qu'est-ce qui vous a amené à faire de la boxe?
En fait, quand on habite en quartier, on fait tous les sports où on n'a pas besoin d'acheter de matériel. Ouais. C'est-à-dire le tennis, laisse tomber. Alors que la boxe.
Le cheval, on ne peut pas le cheval.
Non.
Non, pas le cheval.
J'ai tout le temps le dos, excuse-moi.
Et donc, c'est là où c'est marrant, où les politiques, l'école blanc, le les cadres, etc. Ça, voilà.
Mais je trouve ça super. C'est super parce que ça a toujours été un petit sport, en tout cas dans sa représentation. Dans les années 80, on avait Charles Bietri sur Canal qui avait relancé la boxe. On avait des super soirées avec des grands champions. Mais
Chozo.
Exactement. Mais il faudrait maintenant que ça recommence. Il y a beaucoup plus de licenciés. Il y a beaucoup de licenciés maintenant. La boxe, elle vend en poupe, comme vous venez de le dire. Et on ne s'est pas représenté encore dans des grandes soirées. Le dernier, ça a été Brahim Asloum, j'ai l'impression.
Mais ça commence. La télévision commence à s'intéresser puisque les Français pratiquent de plus en plus la boxe. Il y a les femmes qui se mettent à la boxe. Ça ne vous fait pas flipper, les mecs ?
Ah mais moi qui ai vécu en Allemagne, ça passe à la télé toutes les deux
semaines. Non, ne changez pas de sujet. Il y avait une question.
J'allais revenir, c'est que une fois sur trois, le gros combat, c'est un combat de boxe féminine.
Ouais.
Et les Allemands sont passionnés par ça.
Oui, alors quand on disait ça touche toutes les classes sociales, donc il y a plutôt les cadres à Paris, il y a plein de gens qui commencent à
faire de la boxe.
Oui, c'est ça, c'est formidable.
Et je monte une start-up aussi.
J'ai vu Audrey Pulvar qui faisait de la boxe.
Oui, c'est vrai. Bon, ben voilà. Mais alors.
Si vous auriez dit ça, si elle était à côté de vous, parce que.
Non, mais j'adore
Audrey Pulvar. Ce qui est marrant,
c'est qu'ils vont pas à l'affrontement avec quelqu'un, ils tapent dans des sacs.
Alors, la boxe, c'est pas taper quelqu'un.
Mais non, mais alors on s'entraîne sur un sac, mais il y a un moment, on est, il y a un match. On
oui,
est face
bah
à
voilà,
quelqu'un.
Bah vous venez de le dire, c'est un match, mais on veut pas le taper. Il y a quoi ? Il y a une dizaine de coups que chacun connaît, et ensuite on va essayer de lui en donner plus que d'en recevoir. Mais il y a pas une volonté.
Mais ceux qui font jamais de match, qui font que du sac.
C'est mon cas.
Et le sac.
Alors est-ce que vous avez peur de perdre à dire vos méchancetés.
La meulette, c'est bien. Non, non, mais
vous gagnez parfois contre le sac.
Non, mais en fait, c'est l'entraînement de boxe qui est fascinant. Il est tellement complet.
Ça vous a jamais donné envie de d'essayer un combat?
Alors, j'en ai fait un quand j'avais 18 ans. J'ai fait mon premier combat après 2 ans d'entraînement et j'ai été KO au deuxième round.
Très bien. Et là, vous avez décidé de faire comédien.
Exactement. Plus jamais de ma vie, j'ai fait.
Alors, il y en a un qui est goulé comme une disquette. Donc, voilà. N'essayez pas.
Il a fait de la boxe. Frédéric Fromet avec sa guitare. De quoi allez-vous nous chanter?
Eh ben, je me suis mis dans la peau d'un patriote.
Ouf.
Un patriote favorable à cette clause Molière qui veut qu'on soit capable de causer français si on bosserait sur les chantiers. Au jour d'aujourd'hui, moi c'est qu'est-ce que je dis ? Il y en a des gens qui croivent qu'ils ont tous les droits, grave au niveau du travail. Moi c'est qu'est-ce que je vois ? Il y en a des étrangers qui ont du mal en français. L'autre fois j'y dis au gars qui est sur le chantier, où que c'est que t'as mis la truelle à José ? Je sais c'est quoi que vous vous disiez. Il y en a des fois où que c'est qu'on est trop carré, mais c'est plus mieux au niveau de la sécu. Ouais, c'est dangereux, faisais gaffe à la grue. Parce que si tu causes pas la France, bah tu la vois pas la grue. J'ai envie de dire que si tu ferais une erreur, ben le plus pire, faudrait que tu vas au docteur. Et attention à l'infractus, hein. Au jour d'aujourd'hui, moi c'est qu'est-ce que je dis, on serait moins emmerdé s'il y aurait des dictées au niveau du travail. Moi c'est qu'est-ce que je vois, il y en a qui croient que le petit Robert, c'est juste mon pote qui s'appelle Robert et qui est pas très grand. Y a pas de souci, on n'est pas des animaux. On veut juste pas lire dans les journaux que pour une syntaxe, un ouvrier est mort. C'est mieux qu'il se casse direction l'aéroport. C'est pas de notre faute, nous qu'on est des Gaulois. On veut que les autres y parlent notre patois. Malgré que v'là, t'y pas que nous on est. Même pas cap d'aligner deux mots en anglais. The droite is running after the extrême droite. Au jour d'aujourd'hui, moi c'est qu'est-ce que je dis, il y a deux drôles de français qui sont rémunérés au niveau du travail. Moi c'est qu'est-ce que je vois, pour des idées honteuses, plus con qu'une pelleteuse, la clause Molière. C'est quoi qui vous a pris? Il fallait faire la clause Ribéry. Et même pire, vu la xénophobie, il faudrait dire que c'est la clause Barbie. Eins, zwei, drei, vier. Au jour d'aujourd'hui, moi c'est qu'est-ce que je dis, cette petite mélodie, c'est moi qui l'a écrit. Au niveau du travail, moi c'est qu'est-ce que je vois, 5 minutes ça m'a pris, autant que ceux qui ont réfléchi à cette clause pourrie.
Voilà, nous sommes arrivés au bout du rouleau de ce...
Premier florilège.
Oui. Florilège.
C'est même un best-of, non?
Non,
excusez-moi, ça s'est joué un peu.
Et demain, il y a la suite du meilleur, bien sûr.
Avec qui?
Avec le chanteur Kabil Idir et la comédienne Catherine Yégel.
Très bien.
À demain.
À demain.